Un père de famille amène son fils à Jésus, ce fils qui est chargé depuis l'enfance d'une grande souffrance. Un esprit malin, qui d'ailleurs présente tous les symptômes de l'épilepsie. Cet homme s'adresse à Jésus directement. Pourquoi ? Parce que ses disciples n'ont pas réussi à soulager la souffrance. N'ont pas réussi à libérer l'enfant. Ils n'ont pas eu la force de chasser le mal. C'est les mots qu'emploie le Père auprès de Jésus pour traduire ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu la force. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont perdus en discussion. Jésus leur demande : de quoi discutiez-vous ? Avec eux, il n'y aura pas de réponse. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé une situation de souffrance en débat théologique, en débat méthodologique, avec tous les hic que vous voulez. Dans ce témoignage de ce père de famille, moi, je ressens l'urgence et le désespoir de toutes ces familles qui vivent avec la maladie ou avec le handicap depuis si longtemps, au quotidien. Je ressens leur solitude. Et je ressens aussi la force de leur engagement pour leur bien-aimé en souffrance. Notons aussi que tous ceux qui sont mentionnés dans ce récit sont des croyants. Il y a bien sûr les compagnons de Jésus, les 12, dont Pierre, Jacques et Jean viennent juste de descendre de la montagne après avoir été témoins de la transfiguration, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi ce père de famille qui est un croyant et qui vient faire appel aux disciples. Il y a aussi quelques scribes. Ce sont des spécialistes de la Bible. Ne l'oublions pas, le mot scribe, tout de suite, on dit que ce n'est pas des bons croyants. Non, ce sont des spécialistes, ce sont des profs de théologie, les scribes. Tous sont des croyants. Et rien ne se passe. Aucune délivrance, aucune guérison, rien. Tous croyants. De gentils croyants, sans doute. Pleins de connaissances de Dieu, pleins de leurs pratiques religieuses, comme nous, peut-être. Et quand Jésus apprend ce qui ne s'est pas passé, il se fâche méchamment contre les gentils croyants. Génération incapable de croire, combien de temps encore resterai-je avec vous ? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ? J'entends ça comme combien de temps encore vais-je devoir croire à votre place ? Jésus est fatigué de constater que la confiance de ces gens qu'il enseigne, qu'il forme, avec ces personnes avec lesquelles il partage tout, il constate que cette foi est inopérante, qu'elle n'est pas totale. Qu'elle n'est pas totale au sens de une foi décomplexée, une foi qui se lâche, une foi qui s'offre, une foi vivante. Mais vous pourriez rajouter d'autres mots. Hein. Ils sont croyants, oui, mais de là à faire totalement confiance, bon. Et là, devant cette grosse colère de Jésus, reconnaissons-le, sœurs et frères, nous sommes nous aussi un peu gênés. Notre foi est-elle plus consistante, plus active, plus efficace que celle des disciples ? Sauf que nous, nous avons 2000 ans de christianisme au compteur quand même. Hein ? Ne sommes-nous pas de ceux qui ont toujours du mal à imaginer ce que peut changer la foi dans leur vie et dans la vie des autres ? Pourquoi avons-nous du mal à croire comme Jésus aimerait que nous croyions ? Ça, c'est une grande question. Mais peut-être parce que nous nous trompons d'instrument de mesure de la foi. Nous idéalisons la foi. Nous la rêvons, cette foi sans faille, orthodoxe, bien sûr, inconditionnelle, parfaite en quelque sorte. Mais ce récit nous apprend quelque chose d'autre sur la foi. Peut-être quelque chose de nouveau pour nous ce matin. La foi n'est pas premièrement une confession parfaite sur le plan doctrinal. Elle n'est pas premièrement un sentiment spirituel, d'autosatisfaction intérieure qui est puisé dans une extase collective ou individuelle, que sais-je. Elle n'est pas une construction mystique ou théologique. Non. La foi, dans ce récit d'évangile, c'est prendre le risque de faire du bien. Faire du bien. Galates 6. Cela paraît tellement évident et simple que vous êtes peut-être déçu là hein, sur ma réponse. Faire du bien, oui. Mais en réalité, faire du bien, c'est tellement rare. Voilà pourquoi Jésus est triste. Il nous donne en partage une foi à soulever des montagnes de souffrance, capable de chasser tous les démons, de guérir toutes les maladies. Une foi suffisante pour inonder notre monde de paix, de joie, d'amour. Tout est donné. Et pendant ce temps, les esprits mauvais dorment tranquilles et accomplissent leur maligne besogne sans être inquiétés le moins du monde. Voilà ce qui fâche notre Seigneur. Le sommeil tranquille des démons. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il y a un mais dans ce texte. La demande du père du garçon commence par ce mot. Mais si tu peux quelque chose, prends pitié de nous et viens à notre aide. Mais quelle superbe prière! Si tu peux, laisse-toi toucher par la souffrance de mon petit. Agis pour nous, pour lui, je te prie. Avec sa petite foi chancelante, ce père ajoute la foi de Jésus, si tu peux. Voilà le secret, sœurs et frères, pour notre foi un peu timide, un peu hésitante, un peu complexée. Et Jésus, fâché, ne s'attendait pas à une telle rencontre. Il ne s'attendait pas à être témoin d'une telle foi. Il est surpris, si je peux, répond-il, décontenancé. Mais tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le Père pousse ce cri du cœur. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Alors, à ce moment-là, Jésus se tourne vers le mauvais esprit et le chasse, libérant immédiatement l'enfant de sa souffrance. Okay. Jésus expliquera à la fin du récit à ses compagnons que ces choses-là, ces guérisons-là, ne sont possibles que par la prière. Il ne nous appelle pas à devenir des concurrents de la médecine, mais à répondre à la souffrance en faisant le bien et en priant. La foi et la prière peuvent faire grand bien autour de nous. La foi de Jésus est venue s'ajouter à la foi de ce Père. La demande du Père avec la réponse de Jésus ensemble ne sont qu'une seule et même expérience de foi au service du bien. La foi de Jésus, j'insiste, vient s'ajouter. Elle vient compléter la foi incrédule, la foi défaillante de ce Père. Elle vient compléter la foi inopérante de ses disciples et peut-être la foi fatiguée, hésitante de vous qui êtes venus ici ce matin pour former cette assemblée. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus vient. Il vient parce qu'il aime les cœurs simples. Il ne peut pas résister à cet appel. Il vient parce que cette prière n'exige rien. Elle tend seulement des mains vides. Elle fait l'offrande du manque, de la tristesse, de la fatigue. Elle fait l'offrande de tout cela. Et en même temps, elle témoigne d'un grand amour pour ce fils en souffrance. Je crois. Et toi, Seigneur, viens compléter ce qui manque à ma foi pour faire changer les choses autour de moi et en moi. Et Jésus le fait. Il donne son appui à ce qui est hésitant, à ce qui est bancal, à ce qui est fragile. Jésus le fait, il injecte une dose de folie et de puissance dans la foi de cet homme pour qu'elle puisse, à cet instant, soulever la montagne de la souffrance, du doute, et aussi la montagne de la soumission au destin. Jésus n'en veut pas de ça. Jésus le fait. Il ne le fait pas pour ce père malcroyant. Il le fait pour cet enfant bien malade, tenu prisonnier. Il ne le fait pas pour que ce père puisse raconter son histoire, son expérience personnelle intérieure, pour dire comment il est devenu puissant dans la foi grâce à Jésus. Non, Jésus guérit pour que ce père puisse enfin vivre avec son fils autre chose que la souffrance au quotidien, autre chose que le combat pour la survie. Il ne le fait pas pour le père, mais il le fait pour le bien. Seulement pour le bien de cet enfant. Ce père éprouvé, seul dans la foule bien pensante et mal croyante, ce père prisonnier de sa propre vie, enchaîné à la souffrance de son enfant, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma sœur. Qui ne se reconnaît pas dans le visage, dans le combat, dans les larmes de ce père? Je crois, oui, mais je vois bien que je ne suis pas sûr de moi. Alors, la bonne nouvelle de cet évangile, c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter. Le Christ va compenser ce qui manque à votre foi. Il ne le fera pas pour faire de vous et de moi des héros de la foi. Encore que, qui sait. Il apportera ce qui nous manque parce qu'il veut le bien, qu'il nous aime bien. Il ne peut pas, lui, s'empêcher de ressentir notre souffrance, de vivre notre mal intérieur et de venir le combattre à côté de nous. Le tout, c'est de vouloir sortir de la foule à un moment donné, de s'approcher et de tendre les mains dans la vérité d'un cœur ouvert à Dieu. En venant au culte ce matin, chacun de vous est comme ce Père, à la fois croyant et malcroyant. Mais ce qui compte, c'est deux choses, que vous soyez là et que lui, le Seigneur, soit là aussi. Amen.